Bonjour, Aurore Berger.
Bonjour.
Nous sommes à 3 jours de la journée de mobilisation des Gilets jaunes. Comment vous qualifiez ce mouvement? Comment vous l'appelez?
Écoutez, on a le droit d'avoir des citoyens, en effet, qui se mobilisent. Après, quand je regarde un peu la typologie de celles et ceux qui sont en train de se mobiliser, j'y vois aussi beaucoup d'opposants politiques et une instrumentalisation.
Mais ils sont venus après, ils ont dit qu'ils soutenaient.
Vous savez, dans certains départements, ceux qui ont initié le mouvement des Gilets jaunes étaient quand même souvent des gens qui avaient été identifiés parce qu'ils sont militants et engagés déjà parfois dans la vie politique. Et de fait, on voit le noyautage qui est fait par l'extrême droite et qui est assez puissant. Moi, je suis quand même toujours assez étonnée de voir des partis dits républicains qui s'allient à ce genre de manifestation au mieux populiste, au pire un peu poujadiste.
Vous pointez l'extrême droite, pas la gauche de la gauche, la France insoumise, qui soutient aussi le mouvement?
Oh, vous savez, ils se rejoignent très régulièrement. Les extrêmes se rejoignent. On le voit au quotidien à l'Assemblée nationale, dans les votes qui sont les leurs, dans les applaudissements réciproques qu'ils s'accordent, où il y a souvent quand même une convergence de vues de plus en plus forte, non seulement dans la méthodologie. Oui. On l'a vu avec les excès récents de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la justice, de la police, notamment. Et puis, on le voit aussi dans les discours qu'ils portent.
Ouais. Pour vous, il ne s'agit pas d'une protestation citoyenne, spontanée, qui mérite d'être entendue et respectée?
Ce qui mérite d'être entendu, c'est en effet les Français qui nous disent les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et ça, il faut absolument qu'on l'entende et qu'on y réponde. Et c'était signifié il y a quelques minutes par rapport aux annonces en effet du Premier ministre pour renforcer l'accompagnement, notamment dans la transition écologique. Parce que il faut que tout le monde s'en saisisse, mais il faut que tout le monde ait les moyens de se saisir de cette transition écologique. Et là, c'est le cas quand on accompagne clairement les gens dans cette transition. C'est-à-dire on ne prend pas juste une décision dans un bureau parisien, mais c'est des décisions d'accompagnement fortes avec un engagement financier de l'État qui est extrêmement puissant. Donc ça, oui, entendre les inquiétudes. Après, qu'il y ait une forme de manipulation par certains partis politiques qui sont à la recherche d'une nouvelle cure de jouvence, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas être naïf.
Alors, justement, les mesures d'Édouard Philippe, il vient de les annoncer. Tout d'abord, il dit très clairement qu'il n'est pas question d'annuler la taxe carbone. Donc là-dessus, pas de recul. 20% des Français, dit-il, les plus modestes, pourront bénéficier d'une surprime pour changer d'automobile qui pourra aller jusqu'à 4 000 €. Le gouvernement vise 1 000 000 de primes classiques à la conversion sur le quinquennat contre 500 000 précédemment. Et le Premier ministre annonce également un élargissement du dispositif des indemnités kilométriques pour que les Français qui utilisent beaucoup leur voiture, notamment les petites cylindrées, puissent en bénéficier. À 3 jours du mouvement, vous pensez que ça peut faire retomber la tension, que ça peut être suffisant?
En tout cas, je pense que c'est important de démontrer deux choses. Un, qu'on maintient le cap sur la transition écologique. Parce que c'est pas un luxe, c'est pas superfétatoire la transition écologique, c'est une urgence, c'est une nécessité. Oui. Et c'est nécessité d'embarquer les Français dans la transition écologique, elle se fera pas sans eux. Et après, la deuxième chose, c'est évidemment d'accompagner ceux qui en ont besoin.
Mais pourquoi ne pas l'avoir fait en même temps? Pourquoi ne pas avoir annoncé à la fois la hausse de la fiscalité pour la transition écologique et toutes ces mesures, en disant
mais
voilà, on fait les deux en même temps, selon la même
fameuse
formule.
Mais le fameux en même temps,
non, là, c'est sous la
pression
que le gouvernement le décide.
Non, c'est pas tout à fait juste, parce que quand vous regardez, par exemple, la prime à la conversion pour les véhicules, vous voyez justement que c'est fort aussi du succès. Quand vous en avez déjà 250 000 dès cette année de Français qui l'ont utilisé pour permettre de changer leur véhicule pour des véhicules non moins polluants.
Oui, qui profitent largement au diesel.
Mais moins polluants, c'est ça qui est important. C'est pas la
diesel
même chose.
Quand même.
Non, mais j'entends, mais c'est pas la même chose quand vous avez un véhicule qui date de 15 ans, de 20 ans, qui est peut-être pas aux mêmes normes en termes de sécurité aussi d'ailleurs, et qui est forcément beaucoup plus polluant qu'un véhicule plus récent, parce que la technologie a évolué. Puis progressivement, il faut aussi que les constructeurs nous aident et nous accompagnent là-dessus pour qu'on ait une gamme de véhicules qui soit la plus large possible pour que à niveau de chaque portefeuille, on puisse être en capacité de changer nos véhicules. Donc ça, c'était déjà un accompagnement qui était proposé par le gouvernement et qui a été plébiscité, puisque on voit qu'on est allé au-delà du rythme d'utilisation de la prime à la conversion qu'on avait anticipé, et donc on l'élargit, et je pense que ça, c'est une bonne chose.
Le président de la République sera ce soir l'invité du 20h de nos confrères de TF1, depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Ce sera sa 6e interview en quelques jours, depuis le 31 octobre, donc autant qu'au cours des 6 derniers mois, on est quand même assez loin de la parole rare théorisée par Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Est-ce que ça n'est pas le signe d'un peu de fébrilité ?
Vous savez, vous m'auriez interrogé il y a un mois, vous m'auriez dit le président de la République ne s'exprime pas assez. Mmh. Et là, vous me dites
non,
qu'il ne s'exprimerait pas trop.
Vous remarquerez
que
je n'ai pas porté de jugement de valeur. Je dis non, sixième mais... autant qu'en six mois. Voilà.
En tout cas, je sais que j'étais interrogée par oui. certains confrères qui disaient ça. C'est-à-dire
oui,
le président
mais c'est lui qui avait
assez.
Parlé de paroles rares.
Mais moi, je pense qu'il y avait vraisemblablement une nécessité que ce soit le président de la République lui-même qui s'exprime devant les Français. Et en plus, on a eu un contexte très particulier qui a été quand même le centenaire de la Grande Guerre. Mmh. Et moi, je trouve formidable qu'on ait pu avoir pendant une semaine mémorielle, qui ait permis aussi que les Français se souviennent de ce qui s'est passé. Quand on voit les risques qui sont les nôtres, 6 mois avant les élections européennes, d'avoir peut-être une vague brune sur l'Union européenne, quand on voit les différents résultats nationaux sortis des urnes dans un certain nombre de pays européens, je pense que c'est de nature à ce qu'on se mobilise, est-ce que celles et ceux qui sont profondément attachés au projet européen se mobilisent. Et je pense que rappeler notamment ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale était utile. Donc le président de la République s'exprime quand c'est légitime qu'il le fasse et quand il considère que c'est le bon moment.
C'est demain que débutera la campagne officielle pour la direction de... puisqu'il n'y a pas de présidence, hein, c'est une délégation générale de la République en marche. Alors il y avait jusqu'à hier 2 candidats qui faisaient figure de favoris, les députés de Paris Stanislas Guérini et Pierre Person. J'avais donc prévu de vous demander si vous aviez fait votre choix entre l'un ou l'autre. Finalement, cette question n'a pas lieu d'être, puisque Pierre Person annonce ce matin dans les colonnes du Figaro qu'il renonce à être candidat, donc il n'en reste plus qu'un, Stanislas Guérini. Est-ce que ça n'est pas un peu regrettable pour la vie démocratique et l'image démocratique de votre jeune parti ?
Déjà, moi, j'avais fait mon choix avant de savoir qui serait sur la ligne de départ, puisque c'était pour Stanislas Guérini que j'avais déjà apporté mon parrainage en tant que parlementaire. Donc moi, je suis très heureuse qu'il aille au bout de sa candidature. Après, déjà, je ne sais pas s'il n'y aura pas d'autres candidats.
Oui, mais alors, il y a des conditions
heures.
À remplir. Il faut obtenir des parrainages. Des...
Ça, c'est, oui. c'est légitime
pour l'instant,
des conditions à remplir.
Il y a effectivement Joachim Sonforget qui pourrait...
En tout cas, il a déclaré qu'il souhaitait pouvoir être candidat.
Et puis, il y aurait une candidate.
Peut-être une femme, en effet, qui est une adhérente qui souhaite...
Qui s'appelle Nathalie Anderlein. Tournier, vous n'avez pas envie de la soutenir en tant que femme ?
Non, mais parce que moi, je ne cherche pas forcément à ce qu'il y ait une femme, parce que je suis une femme. Ouais. Moi, je veux qu'on ait le meilleur à ce poste-là. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on a des bons candidats et combien il y a de candidats alignés sur la ligne de départ. La question, c'est surtout ensuite, est-ce qu'on va élire la bonne personne. Pour moi, la bonne personne, c'est Stanislas Guérini, parce que il a confondé En Marche, à une époque où ils étaient très peu nombreux à croire à la possibilité de faire émerger un nouveau parti politique, un nouveau mouvement politique qui a permis de conduire Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et
pourquoi
on a besoin.
Pourquoi il y a si peu de candidats?
Bah, tout simplement parce que c'est un job qui est pas facile, peut-être aussi, et puis parce qu'il faut se sentir suffisamment légitime pour pouvoir l'être. Et moi, je pense que pour avoir travaillé avec lui, parce qu'il est porte-parole aussi du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, ça fait 18 mois qu'on travaille au quotidien ensemble avec Stanislas, et moi, je vois ce qu'il apporte à notre famille politique depuis 1 an et demi, et ce qu'il a même apporté avant d'être parlementaire, puisqu'encore une fois, lui a cofondé La République En Marche.
Merci Aurore Berger.
Merci à vous.
Bonne journée.